Chapitre 24. L'usurier n'est pas venu seul. Son cousin de Bombay l'accompagne. Au contraire d'Ori chez Liane, personne dans la maison n'échappe à son œil de vautour. Il surgit partout avec autant de sang-gêne que s'il était chez lui. Adossé au pilier du balcon, il m'observe en train de faire faire à Madame chez Liane quelques pas de promenade. Il y a une semaine encore, j'aurais prié pour qu'il trouve insignifiante la petite bonne de sa tante. Aujourd'hui, je souhaite ardemment le contraire. Je calcule chaque geste afin de paraître plus âgé sous son regard évaluateur. Mon cœur bat à tout rompre sous mon air tranquille. Depuis une semaine, je me suis préparé à ce moment. J'y ai pensé et repensé, les yeux ouverts dans le noir, allongé sur mon mince matelas de coton. Je suis prête. Il faut que ça marche. Il y a une semaine, tout a changé pour moi, depuis que grand-père est venu me rendre visite. C'était si bon de le revoir. Voulant s'attirer les bonnes grâces de Meïna, il a apporté du lait, du fromage de bufflone et de savoureuses graines sauvages pour l'oiseau. Meïna m'a autorisé à le faire entrer dans le jardin de la cuisine. Nous nous sommes installés tous les deux au fond du potager, sur le lit de corde. Grand-père m'a contemplé, ébahi. Il ne me reconnaissait pas après ces semaines passées loin de lui. J'ai grandi, et comme dit Meïna, j'ai pris quelques courbes. Je ressemble moins à un fagot tout sec. Mes cheveux encore courts ondulent en boucles légères. Grand-père m'a dit qu'il voyait à travers moi sa chère Daïta à son arrivée à la maison. Il a murmuré. Tu as le même visage en pétales de lotus, la peau lumineuse, le même joli front bombé. Et il a ajouté avec fierté. Mais pour le regard, pas de doute. C'est celui de ton père, sincère et grave. Grand-père aussi était changé. Sa démarche était hésitante, ses épaules voûtées. Sa confiance intime semblait l'avoir abandonnée. Il a pris mes deux mains entre les siennes. « Durga te bénisse, » a-t-il murmuré. « Tu seras belle comme ta mère, et tu dois aussi te montrer courageuse. » Il a ajouté après quelques instants. « Le frère de l'épicier m'a donné des nouvelles de mon fils. » Elles étaient terribles. Le frère de Semal avait rencontré Meyan à Bombay, en effet, 2 ans auparavant. Il travaillait dans une pâtisserie. Sur ce point, la tante n'avait pas menti. Mais il n'avait ni femme, ni enfant. Il était seul, devenu aveugle, et il tamisait les farines pour le maigre salaire de 7 roupies par jour qui lui permettait de ne pas mourir de faim. Il avait été le meilleur ouvrier du patron, jusqu'à ce qu'une bassine d'huile bouillante se renverse sur lui. Il avait encore eu de la chance. Le patron l'avait repris par montée d'âme quand il était ressorti de l'hôpital, ayant souffert le martyre. Un silence terrible a suivi les paroles de grand-père. Ce dernier a répondu à ma question muette. Meïan a craint que ta tante ne vous chasse de la maison en apprenant qu'il était invalide. Voilà pourquoi il n'a pas donné signe de vie. Grand-père a continué sans me regarder. Ta tante a fait 2 honteux mensonges. Le premier assez mal, qui a annoncé à ton père que ta mère et toi vous étiez morts, toutes deux de la même maladie.
Maman, aide-moi, ai-je pensé de toutes mes forces.
Et maintenant, vois quel homme est Meïan, a poursuivi grand-père. Lui qui venait d'apprendre que sa fille et sa femme étaient mortes, il a pensé à protéger son vieux père. Il a supplié ses mâles de ne pas parler de son accident, de dire au contraire qu'il était parti aux Émirats gagner de l'argent. Il espérait qu'ainsi, sa tante me traiterait avec plus d'égard. La voix de grand-père s'est brisée. Elle a résonné jusque dans la moelle de mes os avec le second mensonge de Tante Cobra. Sa tante a préféré nous raconter que Meïan avait fondé une nouvelle famille. La douleur acide m'avait saisi à nouveau dans ses griffes. Le feu me dévorait l'intérieur du corps. Grand-père, tout proche, ne pouvait m'être d'aucun secours. Même le jardin autour de moi n'existait plus. J'ai lutté seule contre la force de cette colère qui menaçait de me rendre folle. L'immense vague se rapprochait, prête à me submerger. Au moment où j'allais être emportée, le chant de Daïta a retenti faiblement à mes oreilles. Je me suis cramponnée à ce filet de voix. Le son devenait de plus en plus clair à travers le brouillard. La douleur m'a lâchée d'un coup. La déesse Sarasvati m'était apparue. Son visage souriant était celui de maman. Elle était penchée sur un homme aux yeux vides,
que j'ai reconnu immédiatement. C'était mon père.